plus vrai. Il était enchanté avec son costume rose des Champs-Élysées et peut-être même davantage. Et Madame Rosa disait après que quand il écoutait, il avait des yeux de vrai croyant et que les Noirs d'Afrique, car il y en a ailleurs, sont encore ce qu'il y a de mieux dans le genre. Les vrais croyants sont des personnes qui croient en Dieu, comme Monsieur Hamil, qui me parlait de Dieu tout le temps et il m'expliquait que ce sont des choses qu'il faut apprendre quand on est jeune et qu'on est capable d'apprendre n'importe quoi. Monsieur Nda Amédée avait un diamant dans sa cravate qui étincelait. Madame Rosa disait que c'était un vrai diamant et pas un faux comme on pourrait le croire, car on ne se méfie jamais assez. Le grand-père maternel de Madame Rosa était dans les diamants et elle en avait hérité des connaissances. Le diamant était au-dessous du visage de Monsieur Nda Amédée, qui brillait aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Madame Rosa ne se souvenait jamais de ce qu'elle avait mis la dernière fois dans la lettre à ses parents en Afrique, mais ça n'avait pas d'importance. Elle disait que plus on n'a rien, et plus on veut croire. D'ailleurs, Monsieur Nda Amédée ne cherchait pas la petite bête, et ça lui était égal, à partir du moment que ses parents étaient heureux. Parfois, il oubliait même ses parents, et il se disait tout ce qu'il était déjà, et tout ce qu'il allait être encore davantage. Je n'avais encore jamais vu quelqu'un qui pouvait parler ainsi de lui-même comme si c'était possible. Il hurlait que tout le monde le respectait et qu'il était le roi. Oui, il gueulait « Je suis le roi !» Et Madame Rosa mettait ça par écrit, avec les ponts et les barrages et tout. Après, elle me disait que M. Nda Amédée était complètement michougué, ce qui veut dire fou en juif, mais que c'était un fou dangereux et qu'il fallait donc le laisser faire pour ne pas avoir d'ennui. Il paraît qu'il avait déjà tué des hommes, mais que c'était des Noirs entre eux et qu'ils n'avaient pas d'identité, parce qu'ils ne sont pas français comme les Noirs américains et que la police ne s'occupe que de ceux qui ont une existence. Un jour, il allait se cogner aux Algériens ou aux Corses et elle allait être obligée d'écrire à ses parents une lettre qui ne fait plaisir à personne. Il ne faut pas croire que les proxénètes n'ont pas de problème comme tout le monde. Monsieur Nda Amédée venait toujours avec deux gardes du corps car il était peu sûr et il fallait le protéger. Ces gardes du corps, on leur aurait vite donné le bon Dieu sans confession tellement ils avaient des sales têtes et faisaient peur. Il y avait un qui était boxeur et qui avait pris tant de coups sur la gueule que tout avait perdu sa place. Et il avait un œil qui n'était pas à la hauteur, un nez écrasant et des sourcils arrachés par des interruptions du combat de l'arbitre à l'arcade sourcilière. Et un autre œil qui n'était pas tellement chez lui non plus. Comme si le coup qu'on avait donné à l'un avait fait sortir l'autre. Mais il avait du poing et ça ne s'arrêtait pas là. Il avait aussi des bras qu'on ne rencontre pas ailleurs. Madame Rosa m'avait dit que quand on rêve beaucoup, on grandit plus vite. Et les poings de ce monsieur Borot avaient dû rêver toute leur vie tellement ils étaient énormes. L'autre garde du corps avait une tête encore intacte, mais c'était dommage. Moi j'aime pas les gens qui ont des visages où ça change tout le temps, et fuient de tous les côtés, et qui n'ont jamais la même gueule deux fois de suite. Un faux jeton on appelle ça. Et bien sûr, il devait avoir ses raisons, qui n'en a pas. Et tout le monde a envie de se cacher. Mais celui-là, je vous jure, avait l'air tellement falsifié qu'on avait les cheveux qui se dressaient sur la tête rien qu'à penser ce qu'il devait cacher. Vous voyez ce que je veux dire? Par-dessus le marché, il me souriait tout le temps. Et c'est pareil que les Noirs mangent des enfants dans leur pain. C'est des rumeurs d'Orléans, tout ça. Mais j'avais toujours l'impression que je lui donnais de l'appétit. Et ils ont quand même été cannibaux en Afrique, on ne peut pas leur enlever ça. Quand je passais à côté de lui, il me saisissait, il me prenait sur ses genoux, et il me disait qu'il avait un petit garçon qui avait mon âge et qu'il lui avait même offert une panoplie de cow-boys dont j'ai toujours eu envie. Une vraie ordure, quoi. Peut-être qu'il y avait du bon en lui, comme dans tout le monde quand on fait des recherches. Mais il me foutait les chocottes avec ses yeux qui n'avaient pas de sens unique deux fois de suite. Il devait le savoir, parce qu'il m'avait même apporté une fois des pistaches tellement il mentait bien. Des pistaches, ça veut rien dire du tout. C'est un franc tout compris. S'il se croyait faire un ami avec ça, il se trompait, croyez-moi. Je raconte ce détail parce que c'est dans ces circonstances indépendantes de ma volonté que j'ai fait une nouvelle crise de violence. Monsieur Nda Amédée venait toujours se faire dicter le dimanche. Ce jour-là, les femmes ne se défendent pas, c'est la trêve des confiseurs. Et il y en avait toujours une ou deux à la maison qui venaient chercher leur môme pour l'emmener respirer dans un jardin public ou l'inviter à déjeuner. Je peux vous dire que les femmes qui se défendent sont parfois les meilleures mères du monde, parce que ça les change des clients et puis un môme, ça leur donne un avenir. Il y en a qui vous laissent tomber, bien sûr, et on n'en entend plus parler, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas mortes et n'ont pas d'excuses. Elles ramenaient parfois leur môme seulement le lendemain midi pour les garder le plus longtemps possible avant de reprendre le travail. Ce jour-là, il n'y avait donc à la maison que les mômes qui étaient les permanents, et ça faisait surtout moi et Banania, qui ne payait plus depuis un an, mais qui s'en foutait complètement et faisait comme chez lui. Il y avait aussi Moïse, mais il était déjà en instance dans une famille juive qui voulait seulement s'assurer qu'il n'avait rien d'héréditaire. Parce que c'est la première chose à laquelle il faut penser avant de se mettre à aimer un môme si on ne veut pas être embêté plus tard. Le docteur Katz lui avait fait un certificat, mais ces gens-là voulaient bien regarder avant de plonger. Banania était encore plus heureux que d'habitude. Il venait de découvrir sa quéquette, et c'était la première chose qui lui arrivait. J'apprenais des trucs auxquels je ne comprenais absolument rien, mais M. Hamil me les avait écrits de sa main, et ça n'avait pas d'importance. Je peux vous les réciter encore parce que ça lui ferait plaisir. Ça veut dire que celui qui aime Dieu ne veut rien d'autre que lui. Moi, je voulais bien plus, mais M. Hamil me faisait travailler ma religion. Car même si je restais en France jusqu'à ce que mort s'en suive, comme M. Hamil lui-même, il fallait me rappeler que j'avais un pays à moi, et ça vaut mieux que rien. Mon pays, ça devait être quelque chose comme l'Algérie ou le Maroc. Même si je ne figurais nulle part du point de vue documentaire, Madame Rosa en était sûre. Elle ne m'élevait pas comme arabe pour son plaisir. Elle disait aussi que pour elle, ça ne comptait pas. Tout le monde était égaux quand on est dans la merde. Et si les juifs et les arabes se cassent la gueule, c'est parce qu'il ne faut pas croire que les juifs et les arabes sont différents des autres. Et c'est justement la fraternité qui fait ça. Sauf peut-être chez les Allemands où c'est encore plus. J'ai oublié de vous dire que Madame Rosa gardait un grand portrait de M. Hitler sous son lit, et quand elle était malheureuse et ne savait plus à quel saint se vouer, elle sortait le portrait, le regardait, et elle se sentait tout de suite mieux. Ça faisait quand même un gros souci de moi. Je peux dire ça à la décharge de Madame Rosa. Comme juive, c'était une sainte femme. Bien sûr, elle nous faisait bouffer toujours ce qui coûtait le moins cher, et elle me faisait chier avec le ramadan quelque chose de terrible. 20 jours sans bouffer, vous pensez, c'était pour elle la manne céleste, et elle prenait un air triomphal quand le ramadan arrivait, et que j'avais plus le droit au gefilte fish qu'elle préparait elle-même. Elle respectait les croyances des autres, la vache, mais je l'ai vue manger du jambon. Quand je lui disais qu'elle n'avait pas le droit au jambon, elle se marrait, et c'est tout. Je ne pouvais pas l'empêcher de triompher quand c'était le ramadan. Et j'étais obligé de voler à l'étalage de l'épicerie dans un quartier où j'étais pas connu comme arabe. C'était donc chez nous un dimanche, et Madame Rosa avait passé la matinée à pleurer. Elle avait des jours sans explication où elle pleurait tout le temps. Il ne fallait pas l'embêter quand elle pleurait, car c'était ses meilleurs moments. Ah oui, je me souviens aussi que le petit Viet avait reçu le matin une fessée parce qu'il se cachait toujours sous le lit quand on sonnait à la porte. Il avait déjà changé 20 fois de famille depuis 3 ans qu'il était sans personne, et il en avait sérieusement marre. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais un jour j'irai voir. D'ailleurs, les sonnettes ne faisaient du bien à personne chez nous, parce qu'on avait toujours peur d'une descente de l'assistance publique. Madame Rosa avait tous les faux papiers qu'elle voulait. Elle s'était organisée avec un ami juif qui ne s'occupait que de ça pour l'avenir depuis qu'il était revenu vivant. Je ne me souviens plus si je vous ai dit, mais elle était aussi protégée par un commissaire de police qu'elle avait élevé pendant que sa mère se disait coiffeuse en province. Mais il y a toujours des jaloux, et Madame Rosa avait peur d'être dénoncée. Il y avait aussi qu'elle avait été réveillée une fois à 6h du matin par un coup de sonnette à l'aube, et on l'avait emmenée dans un vélodrome et de là dans les foyers juifs en Allemagne. C'est donc là-dessus que M. Nda Amédée est arrivé avec ses deux gardes du corps pour se faire écrire une lettre, dont celui qui avait tellement l'air d'un faucheton que personne ne pouvait l'encaisser. Je ne sais pas pourquoi je l'avais pris en grippe, mais je crois que c'était parce que j'avais 9 ou 10 ans et des poussières, et qu'il me fallait déjà quelqu'un à détester comme tout le monde. Monsieur Nda Amédée avait mis un pied sur le lit, et il avait un gros cigare qui jetait des cendres partout sans regarder à la dépense, et il a tout de suite déclaré à ses parents qu'il allait bientôt revenir au Niger pour vivre en tout bien tout honneur. Moi, maintenant, je pense qu'il y croyait lui-même. J'ai souvent remarqué que les gens arrivent à croire ce qu'ils disent. Ils ont besoin de ça pour vivre. Je ne dis pas ça pour être philosophe. Je le pense vraiment. J'ai oublié de préciser que le commissaire de police, qui était un fils de pute, avait tout appris et tout pardonné. Il venait même parfois embrasser Madame Rosa, à condition qu'elle ferme sa gueule. C'est ce que Monsieur Hamil exprime quand il dit que tout est bien qui finit bien. Je raconte ça pour mettre un peu de bonne humeur. Pendant que Monsieur Nda Amédée parlait, son garde du corps de gauche était dans un fauteuil qui se tenait là, en train de se polir les ongles, pendant que l'autre ne faisait pas attention. J'ai voulu sortir pour pisser, mais le deuxième garde du corps, celui dont je vous parle, m'a saisi au passage et m'a installé sur ses genoux. Il m'a regardé, il m'a fait un sourire, il a même mis son chapeau en arrière et il a tenu des propos pareils.
Tu me fais penser à mon fils, mon petit Momo.